Angélique Kidjo, une vocalise féministe.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est une pyromane de la joie, elle met le feu mais n'a pas d'extincteur. Je ne sais plus qui a dit ça d'Angélique Kidjo, mais il y a du vrai. Je viens de refermer son autobiographie qui paraît au Seuil dans la collection « Je chemine avec ». Et franchement, cheminer dans les valises et les studios d'une star, star depuis l'école maternelle, ça vous coûte 12 euros avec à la clé un puissant voyage de diasporée. Du Bénin aux États-Unis en passant par la France, du féminisme parental à la dictature de Kérékou en passant par les tambours de la voix, elle vit, cherche, se trompe, recommence. Les anges passent dans la vie d'Angélique, pas un temps mort. Que du rythme, salsa, pop, rock, bossa, au service de l'histoire de l'Afrique, le tout saupoudré de 4 Grammy Awards dans la catégorie World Music. En sol majeur est tout chose de recevoir l'une des marraines d'Africa 2020 qui vient bien sûr les bras chargés avec ses proverbes, sa fondation Batonga, Mother Nature, son nouvel album, et puis, son programme en sol majeur. Mais bonjour Angélique Kidjo.
Bonjour. Alors j'ai commencé à danser très tôt ce matin.
Oui, c'est bon. Merci de nous accueillir et de nous faire danser même masqués avec ce titre d'Earth, Wind and Fire, In the Stone. Qu'est-ce que ça vous rappelle?
Mais ça me rappelle les fêtes à la maison et quand ce disque est arrivé, on était devenu une hystérie. Tout le monde faisait ses pas de danse. Mon père dansait du funk. C'est un truc de fou, c'était carrément... la joie qui éclate à la fin d'une bonne journée.
Presque un hymne familial.
Mais c'est au-delà de ça, c'est la capacité qu'avaient mes parents de pouvoir faire une pause de temps en temps quand c'était indispensable, quand tout le monde y avait de la joie. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé aussi avec le bassiste de Earth, Wind & Fire, c'est... jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est d'une précision rythmique.
Que vous avez vous-même dans les épaules, j'en atteste.
Machine à vous, waweza kuniimbia nyimbo ya utoto wakati ulikuwa mtoto?
Pourriez-vous me fredonner une comptine de votre enfance?
Tout bavi, papa mon la home, maman mon la home.
Magnifique. C'est ce qu'on vous chante.
Oh, il y en a tellement. C'est celle qui m'est venue, il y a plein de deux. Jeje vinye lo to vole, me kepwe nam lo to vole, gbanyo tanyeji to vole. Il y en a plein, pagaille quoi en fait.
Car effectivement, la maison chantait, jouait. De
tout le monde chante. Le monde.
Famille métissée chez vous, quel est le nom de jeune fille de votre mère?
Fernando. Son arrière-arrière-grand-père est un descendant d'esclaves qui est revenu du Brésil en fait. Et voilà, ils sont installés entre le Bénin et le Nigeria. Et c'est incroyable de voir cette histoire d'esclavage dans ma famille qui a donné la naissance à la personne que je suis aujourd'hui. Mmh. En fait.
Et pourquoi vos frères portent des noms différents?
Mes oncles.
Vos oncles,
les oncles de ma mère, je dirais. Parce que quand ils sont revenus tous, ils savaient qui était leur maître en tant qu'esclave. Donc ces noms qu'ils leur ont donnés, même s'ils sont de la même lignée, ces noms sont devenus leur nom de famille. Donc c'est comme ça que maman a gardé son nom de jeune fille, qui était le nom de son père, Fernando. Mmh.
Donc famille métissée, avec des parents féministes. Alors, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est possible chez vous. À quoi ressemblait le féminisme de papa et le féminisme de maman?
Mon père avait toujours l'habitude de dire qu'un mariage, ce n'est pas une possession de l'un ou de l'autre. C'est un partenariat. Et ma mère a dit, à un moment donné de ma vie, une fois qu'on ne fera plus d'enfants, moi je veux faire du théâtre parce que c'est ma passion. Et mon père a dit, je ne t'empêcherai jamais de vivre de ta passion. Donc en fait, ma maman, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a créé l'une des troupes théâtrales les plus larges en Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, ceux qui te disent, les amis de la famille, du couple, sont toujours là. Une fois que ma maman est partie, je vais dire à mon père, mais tu es fou Franck, tu laisses ta femme partir, mais qui c'est qui met le pantalon dans la maison? Et mon père leur disait, ma femme, si elle est heureuse, je suis l'homme le plus heureux de la terre. Ce n'est pas ma chose, elle est une personne à part entière.
De la musique, des proverbes, des contes, j'imagine.
Ah oui.
Et bien sûr, dans vos parages, deux grands-mères formidables qui vous ont expliqué un peu les choses de la vie, Angélique. Voilà comment vous les racontez.
Contrairement à ma grand-mère maternelle qui n'avait jamais connu la polygamie, ma grand-mère paternelle a vécu avec des co-épouses. Je pense que cela a forgé son caractère. Elle a subi un choc violent au moment de la mort de son mari. Ils étaient nés dans le même village et elle a dû partir à Cotonou où elle a décidé de vendre des tissus. D'après ce qu'elle m'a raconté, l'église interdisait aux veuves de vendre des marchandises au marché réservé aux hommes. Elle est allée trouver le prêtre et lui a dit « Je veux l'aide du pape pour m'autoriser en tant que veuve à me prostituer pour élever mes enfants. » Il a protesté bien sûr et elle a continué. Ou alors trouver une solution pour que les veuves puissent nourrir décemment leurs enfants. Finalement, grâce à une énorme pression, elle est parvenue à ce que l'Église annonce un jour à la messe que les femmes pouvaient, au même titre que les hommes, vendre leurs marchandises au marché.
Une grand-mère paternelle qui avait bouche, comme on dit dans certains coins du continent, n'est-ce pas, Angélique Quijot, vous faites des yeux?
Ma grand-mère paternelle, il ne faut pas la chercher. Parce qu'elle, elle a une bouche, mon sang de bonsoir. Elle vous écrase en deux mots. Elle avait, je ne sais pas, c'est parce qu'elle a fait du commerce et elle savait à qui faire du crédit pour acheter des tissus parce qu'elle savait qui allait rembourser, qui n'allait pas rembourser ou qui allait prendre du temps pour rembourser. Donc, n'ayant jamais été à l'école, ne sachant ni lire ni écrire, elle a développé cet instinct. Un seul regard, elle sait déjà quel genre de personne vous êtes.
Et elle avait un regard acéré, on va dire, sur la polygamie.
Oh la vache, elle n'aimait pas du tout la polygamie parce que quand on est une personne indépendante, c'est difficile d'accepter que l'homme qu'on épouse soit partagé entre d'autres femmes.
Kuba kubetindonga
Vous vous souvenez forcément de cette chanson de Myriam Makeba, Angélique Kidjo. Vous avez même fait vos premières vocalistes féministes dessus, non?
C'est clair. Ma mère et ses copines avaient un groupe de femmes qui demandait plus d'autonomie des femmes. Et moi, j'avais 8 ans. Et Madame Johnson, qui était la présidente de ce groupe-là, disait à ma maman, « Amène ta fille, elle chante mieux. Comme ça, les gens vont s'arrêter pour nous écouter parce que nous, quand on chante, là, tout le monde s'enfuit. » Et puis j'allais, j'étais devant et puis je chantais cette chanson sur laquelle, en fait, elles ont mis des paroles de leurs revendications dessus. Les femmes ne sont pas des objets, il ne faut pas s'amuser avec une femme, ce n'est pas un jouet. Et une femme a aussi autant d'importance qu'un homme. Et moi, je chantais ces trucs-là à 8 ans.
Ouais.
Ma seule excuse, c'est que pendant que je chante, je ne fais pas mes devoirs. C'était ça.
C'était une initiation aussi.
C'était une initiation au féminisme. Alors. Parce que pour moi, en tant que gamine à 8 ans, c'était évident pour moi que ma maman n'était pas un objet. Mais en même temps, j'aimais chanter. Donc je chantais, je me disais, ah ouais, moi je ne suis pas un objet. Je ne suis pas un objet.
Mais racontez-nous cette période où vous commencez à devenir ce que vous appelez une junkie de la musique.
Ah! Je suis arrivée en France en 1983 et ce qui se passe, c'est que avant la dictature communiste, on pouvait écouter toutes les musiques chez soi. Quand la dictature est arrivée, il y a beaucoup de musiques qui ont disparu de l'Occident, en fait, de la France, l'Angleterre et compagnie. Et les artistes béninois, on leur avait fait comprendre qu'il fallait qu'ils chantent la révolution. Prêt pour la révolution, la lutte continue dans toutes les langues. Donc dans la radio, quand on allume la radio, on attend prêt pour la révolution en français, dans les langues du Nord, toutes les langues possibles pour faire la propagande de dictature, en fait. Moi, j'ai écouté, je n'ai pas grandi dans une maison où on m'a dit il faut écouter que de la musique qui vient de l'Afrique. J'ai écouté toutes les musiques. J'ai découvert James Brown, j'ai découvert plein de musiques arrivées de partout. Donc pour moi, en tant qu'artiste, il était impossible pour moi d'écrire une chanson pour dire prêt pour la révolution, la lutte continue, parce que mon père avait l'habitude de nous dire que quand on est un artiste, il ne faut pas être affilié à un parti politique. Parce que quand tu as un parti politique, il part, ta carrière disparaît. Et un dernier concert que j'ai fait à Cotonou lors de la rencontre des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'un des moments où je me suis sentie sale.
Ah oui?
Complètement, parce que j'avais devant moi des chefs d'État qui avaient l'âge de mon père, certains plus vieux, mais dans leur regard, dans leur attitude, dans leur mépris, le manque de respect pour les artistes qui venaient jouer, traditionnels comme non traditionnels, modernes, ils parlaient, ils buvaient, ils n'avaient rien à faire. Ouais. Et quand les femmes passaient, leur regard lubrique était quelque chose d'absolument insoutenable. En fait, la maison est devenue une prison.
Donc comment vous communiquiez? Parce que vous étiez une famille très communicante.
Hein. Mais pour communiquer, c'est dans la chambre, on s'enfermait avec nos parents. Et quand il y avait du monde à la maison, on ne parlait plus. Il fallait appeler son père camarade, sa mère camarade. Et moi, je n'ai pas été élevée comme ça, donc je n'avais pas le réflexe. Donc quand je suis partie, c'était pareil. Je n'ai pas pu appeler mes parents parce qu'à chaque fois qu'on sortait du pays, il fallait une autorisation de sortie du gouvernement. Et moi, je ne l'ai pas demandé, donc je suis partie sans demander cette autorisation-là. Et quand je suis arrivée en France, j'ai découvert la musique de Higelin, Bachon, Talking Heads, tout ce qui est pendant 10 ans que je n'ai pas écouté. Donc,
stage de rattrapage.
Voilà, j'ai fait un stage intense de rattrapage. Je suis devenue junkie de musique, comme on dit. Tout ce qui passait, j'écoutais. Tout.
En même temps, vous qui ne repreniez pas ce slogan de propagande « Prêt pour la révolution », vous étiez une petite révolutionnaire en herbe. Ça commence très tôt lorsque vous composez votre toute première chanson, Angélique Kidjo.
Mais je ne suis pas une révolutionnaire, je suis quelqu'un qui aime la justice.
Révoltée.
Je suis révoltée contre l'injustice.
Racontez-nous votre toute première chanson, celle que vous avez composée à 9 ans. À 15 ans,
j'ai composé une chanson qui s'appelle Azanakpe, après avoir entendu Winnie Mandela sur la télévision du Nigeria parler de Nelson Mandela. C'est-à-dire que j'ai grandi pendant 15 ans au Bénin sans savoir ce qui se passait en Afrique du Sud. Ça n'avait plus de sens par rapport à cette idée de nos parents qui nous disaient « Un être humain n'est pas une question de couleur ». Je sortais en confiance totale, me disant « Rien ne m'arrivera jamais, ma couleur de peau ne compte pas ». Et tout d'un coup, à ce moment-là, je me suis dit, eh bien, ta couleur de peau, c'est peut-être une sentence de mort pour toi.
Donc vous prenez la plume.
Et j'ai pris la plume et j'ai écrit violence totale.
Violence totale, colère anti-blanc.
Ah, complet. Et mon père me dit, mais non, mais c'est manichéen la façon dont tu vois le monde. C'est pas comme ça que ça se passe. Les blancs et tout de suite, on fait quoi? Il m'a dit, tu ne peux pas, la haine n'a pas de place dans la musique. Point final. Si tu ne peux pas transformer ta colère et cette douleur que je sens dans ta chanson en quelque chose de beaucoup plus positif, c'est même pas la peine que tu chantes. Ça n'en va pas, non?
Est-ce que ces sons vous rappellent quelque chose de votre Bénin premier, Angélique Kidjo? Mmh.
Toujours. Les tambours sont là et je ne sais pas comment l'expliquer, c'est quelque chose qui est collé à mon âme. Quoi. Quand je l'entends, je réagis. Ça me rend pas triste, ça me rend plus de force parce que je me dis, c'est ce rythme tout simple qu'on vient d'entendre, il est dans toutes les musiques du monde, qui aide la voix à se poser et qui invite tout le monde à être là. C'est-à-dire, ce rythme, il est là et tout d'un coup, il se confond avec votre battement de cœur. Et c'est ça qui est puissant dans les musiques traditionnelles qui viennent du continent africain.
Ce tambour que vous avez emporté hein, dans votre musette d'artiste, on y reviendra. Vous avez grandi pas loin d'une mosquée et tout proche de la religion catholique, Angélique. Mmh. La religion était importante évidemment à la maison, mais là aussi, comme pour tous les autres sujets qu'on a abordés rapidement, vous aviez votre opinion sur la chose.
Je suis catholique, j'ai été baptisée, j'ai pris la fameuse première communion, j'ai continué à prendre la communion et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui nous apprennent à aimer Dieu, c'est ce qui nous tabasse quand on ne connaît pas une prière. Ce n'est pas ça, apprendre à quelqu'un à aimer quelque chose. Et ça a été terrifiant pour moi de voir, après une école de catéchisme, de passer à côté d'une voiture, de voir le prêtre qui vient de nous donner des leçons, il nous a tapé parce qu'on ne connaissait pas nos prières, qui est en train de faire l'amour à une femme dans une voiture. Et tu te dis, là, ça va, quoi. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi je vais passer mon temps à aller à l'église et à prier tout le temps? Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma maman, c'est terminé, moi je vais plus à l'école, le dernier du culte, tout le bazar, je ne vais plus entendre parler. Et ma maman m'a dit, mais pas question, tu vas y aller. Et mon père dit, non, elle n'ira pas. Et elle a dit, la foi, ce n'est pas forcément aller quelque part. Quand on a la notion du bien et du mal, le bon Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Pourquoi aller parler, aller se confesser à des êtres humains qui sont des pécheurs autant que soi?
Merci cher papa. Aujourd'hui que vous regardez tout ça encore d'un œil féministe, que le bon Dieu soit un homme, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est qui c'est qui a décidé que le bon Dieu est un homme? C'est les hommes qui ont écrit les livres sacrés, la Bible, le Coran, la Torah, tout ça, c'est les hommes. C'est-à-dire que les femmes n'ont jamais existé. Quand on regarde bien tout ce qui se passe dans la Bible, dans tous les livres religieux, la femme doit être soumise à l'homme. Si Dieu nous a créés tous à son image et nous a donné à tous, hommes comme femmes, comment est-ce que l'homme peut se mettre à la place de Dieu en disant « Le bon Dieu a fait une erreur, moi je vais corriger les erreurs. » Et toutes les religions jusqu'au jour d'aujourd'hui, organisées, et même non organisées, c'est toujours cette logique d'asservir les autres. La culpabilité est une arme puissante des religions et c'est toujours la femme qui doit être responsable des envies sexuelles des hommes. L'homme ne peut pas contrôler sa propre vie. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours celles qui doivent être en dessous de l'homme? Mais l'homme n'existe pas sans la femme. C'est la femme qui donne naissance à un garçon comme à une fille. C'est tellement illogique que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire que le Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image est un Dieu qui déteste les femmes, qui a créé les gens de couleurs différentes parce qu'il déteste les êtres humains? Si on suit tout le cheminement des sociétés qu'on a construites, le racisme, l'antisémitisme, on utilise Dieu. Dieu est devenu une marchandise, est devenu l'excuse ultime quand on tue. L'Holocauste, le bon Dieu a fait les Juifs, il faut les tuer. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. L'Inquisition, on continue de tuer au nom de Dieu. Alors que le message principal du bon Dieu que j'ai appris au catéchisme, c'est aimez-vous les uns les autres.
Mais justement, vous êtes très remonté sur cette question de la charité qui manque singulièrement. Notamment aux pasteurs évangéliques.
Je ne peux pas, maman.
Ça fait des vagues hein, quand vous avez bouche, comme on dit, sur ces questions-là.
Non, mais ça fait des vagues parce que c'est une vérité que personne n'a envie d'entendre. Moi, je ne suis pas contre les religions parce que moi, je crois en un Dieu. Et le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu de tolérance, de compassion, d'empathie et qui ne juge pas.
En sol majeur qui chemine aujourd'hui avec Angélique Kidjo.
Quand j'ai commencé ma carrière en France, on voulait que je porte un boubou ou des vêtements transparents pour montrer mes seins. On me reprochait que mes pochettes soient trop modernes, pas assez africaines. Mais je suis une africaine moderne. J'ai grandi en ville. Mes parents ne m'ont jamais fait porter de boubou à la maison. Quand je suis en jean chez moi au Bénin, personne ne me dit que je ne suis pas assez traditionnelle. Ces polémiques ont aussi fait l'artiste que je suis.
Vous aviez tout de suite mis au clair dans le métier en France, Angélique Kidjo, c'est que vous n'étiez pas l'Africaine de service. Mais ça, c'est du boulot, parce que vous rajoutez plus loin dans cette conversation parue au Seuil, Je chemine avec, c'est difficile d'imposer ses exigences quand on est africain.
Ben, c'est toujours le cas, hein, mais enfin, les choses changent, ça change doucement, mais ça change. Je crois que l'histoire des Africains a toujours été racontée par les autres. Donc forcément, on est tellement confortable à nous déshumaniser au fil des siècles jusqu'au jour d'aujourd'hui qu'on ne peut pas accepter qu'une personne noire ait de l'intelligence et que le noir est toujours perçu au XXIe siècle comme descendant d'esclaves, comme pauvre, comme tout sauf un être humain digne de ce nom. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, t'es pas assez africaine. Une journaliste a écrit dans Libération qu'elle doutait de mon africanité. Je me dis pourquoi? Parce que je suis noire, je dois être sectaire. Je ne peux pas être ouverte d'esprit. Et quand on entend des fois, oh, quand on te pose une question, parle le petit nègre. Moi, toutes ces choses-là, j'ai déjà entendu en France.
Et les préjugés sont aussi valables de l'autre côté.
Et c'est valable des deux côtés.
Côté africain, on peut vous reprocher.
Et c'est ça le problème que j'ai. D'où que viennent les préjugés? C'est mauvais pour tout le monde. Donc moi, c'est ma philosophie de vie qui n'est pas forcément la philosophie de vie qu'on aimerait voir chez une personne noire. Même si j'essaye d'être méchante, des fois, ça ne marche pas. Quoi.
Non,
j'y arrive pas.
Je vois pas ça dans votre regard. Non. Alors, vous avez souhaité évidemment donner une autre image de la femme africaine, notamment à travers l'album Eve, dont on entendait un trop court extrait. Magnifique album. Pourquoi ce titre de Eve?
Ah là là. J'étais au Kenya avec l'UNICEF.
C'était ambassadrice de l'UNICEF.
Ambassadrice de l'UNICEF parce qu'il y a quand même, le Covid a arrêté beaucoup de choses. On avait commencé à tourner la page petit à petit sur la malnutrition sévère de l'enfant. Parce que si on ne le règle pas, le travail, c'est, plus tard, ça ne fonctionne pas. Bref, je suis dans un village, j'ai vu une femme enceinte de 5 mois qui n'avait pas mangé de la journée. L'enfant de 18 mois, 20 mois qui était là, qui ne pouvait pas tenir ça. Je n'en pouvais plus, je me dis mais... Pourquoi on en est là? Et j'arrive dans l'autre village et les femmes m'accueillent. Elles se sont mises ensemble, donc elles partageaient les nourritures avec les enfants sont bien. C'était pas loin. Et j'étais tellement découragée, je savais pas quoi faire. J'avais l'impression que on m'avait battue et que mon corps, j'avais mal partout. J'en avais des larmes aux yeux et puis j'arrive et les femmes ont commencé à chanter. Et par le chant, les femmes se donnent du courage tout le temps, célèbrent leur propre beauté, leur résilience. Et je fais un retour en arrière, je dis, mais à chaque fois que je viens en Afrique et je rentre en Occident et que je vois comment on parle des femmes africaines, il y a une dichotomie, c'est-à-dire que ce n'est pas la même image du tout. Et je me suis dit, si je ne peux pas les montrer partout, je veux qu'on entende leur voix, la joie qu'il y a dans leur voix. Et Ève, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'en ai eu tellement marre que j'ai demandé à ma mère, je dis, mais quel est le crime d'Ève? Qu'est-ce qui se passe avec Ève? Elle me dit, elle n'a pas commis un crime, c'est la lâcheté de l'homme qui fait que Ève est devenue l'aimant de tout ce que l'homme ne peut pas gérer lui-même.
Adam est responsable d'avoir croqué dans la pomme.
Non, mais il m'a dit, je te donne une pomme, tu n'as pas envie de la manger. Tu dis non. Pourquoi est-ce que la femme doit toujours être responsable des errances des hommes? Et je ne comprends pas ça. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Ève. Et j'ai fait des chansons absolument joyeuses dedans.
Alors oui, justement, musicalement, il y avait aussi cette question. Quelle Afrique imposé musicalement aux maisons de disques, Island en l'occurrence à l'époque, du temps de l'excellent Chris Blackwell auquel vous rendez vraiment hommage dans votre livre. Quelle Afrique musicale vous avez fantasmée?
Moi, je n'ai jamais fantasmé mon continent parce qu'elle
est... Vous avez rêvé, pardon.
J'ai rêvé. Mon continent est un continent multiple et complexe. Et même dans mon pays, le petit pays qu'est le Bénin avec, je crois, 12 millions de personnes, il y a plein de langues, je n'en parle que 4. Et quand je suis arrivée en France, je n'avais absolument aucune envie de faire un compromis et perdre mon identité. Parce que je suis africaine. Je suis née en Afrique, je n'ai pas choisi où naître. Et ces musiques traditionnelles m'ont nourrie, m'ont appris les luttes de mes ancêtres, m'ont appris à être une femme, un être humain. Donc moi, mon Afrique que j'avais en moi, c'est justement cette Afrique, parce que les chansons traditionnelles sont modernes. Si elles n'étaient pas modernes, elles seraient déjà complètement disparues. Donc moi, mon Afrique que je rêve, c'était ça, cette modernité de l'Afrique et sa résilience. Les musiques traditionnelles, ce que j'ai remarqué au fil des années et des décennies, c'est que chaque chanson suit son temps. La mélodie est là, les paroles peuvent changer pour coller à la réalité du moment où on vit. Et c'est ça la force des musiques traditionnelles, elles sont comme des vagues.
Le fait de parler, comme vous dites, Angélique Kidjo, quatre langues africaines, hein, le fon, le yoruba, le mina et le gon, plus l'anglais, plus évidemment le français, plus l'allemand et un petit bout d'espagnol, je crois. Qu'est-ce que tout ça vous permet dans l'écriture ?
Ça me donne une liberté de créer même ma langue, ma propre langue à moi.
Il y a une langue Angélique Kidjo.
Ah, mais j'invente des mots, ouais. J'invente des mots comme ça, wombolombo, batonga, plein de choses comme ça. Et c'est parce que l'inspiration m'amène vers ça. À chaque fois qu'il y a une inspiration et qu'on essaie de s'en éloigner, la chanson perd de son sens. Et sur le nouvel album, parmi les chansons que j'ai écrites, il y a une chanson qui m'est venue en portugais. Je ne parle pas le portugais, j'ai écrit les paroles. J'ai fait Google Translate et j'ai eu les paroles en portugais. Et je me suis dit, mais...
C'est une voix de l'ancêtre, ça ? D'un des ancêtres, vous croyez ? Ouais, vous y croyez, à ça ?
Ah, bien sûr. Et cette chanson va être là, ça parle de la mer, de la vie sous la mer, comment cette vie sous la mer, elle est en danger. J'aurais pu la chanter en français, mais c'est en portugais que c'est arrivé. Donc, ouais.
Bien parler spontanément tous le Angélique Kidjo, mais on aurait bien besoin de la traduction de ce magnifique morceau Rémi.
Ça avait dit mon ami, et je m'assieds, je suis assise. Qu'est-ce que je veux pour moi-même, sinon avoir des amis sur lesquels je peux compter et avec lesquels je peux discuter, qu'on s'asseye et qu'on discute.
Alors ça fait partie avec Black Ivory Soul et Oyaya de votre trilogie musicale consacrée à l'histoire de l'esclavage, donc on sait que vous êtes une fille de Ouida, et vous parliez de ses ancêtres issus de l'esclavage tout à l'heure, mais parfois on ne voit pas forcément l'histoire avec un grand H, même lorsqu'elle est sous nos yeux. Qu'est-ce qui a motivé profondément cette trilogie ?
Ben, qu'est-ce qui a motivé, c'est cet événement avec le témoignage de Winnie Mandela, et à 9 ans, quand mon frère qui mettait une perruque pour jouer à la guitare comme Jimi Hendrix, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fiches avec une perruque ? La perruque, ça m'inspire pour jouer Jimi Hendrix. Je dis, mais d'accord. Et c'est là où je lui ai dit, mais c'est qui lui ? Il est africain. Et il me dit, non, c'est un descendant d'esclaves. J'ai dit, c'est quoi un descendant ? C'est quoi un esclave ? Et il a commencé à m'expliquer. J'ai dit, mais attends, t'es malade, t'es un mytho, toi. Et il me dit, va demander à grand-mère. Et j'ai posé la question à ma grand-mère Martine. Elle a commencé à me raconter l'histoire de l'esclavage. Je lui ai dit, vendre et acheter des êtres humains. Grand-mère, tu perds la tête ou quoi ? C'est pas possible. Donc, à 15 ans, j'ai fait le parallèle entre les deux. Et ça a été un big bang dans ma vie, en fait. J'ai commencé à chercher, à comprendre. Et je me suis dit, il faut que j'aille vers cette diaspora qui est partie contre son gré. Et j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte. Et j'ai parlé avec un historien de mon pays qui m'a dit, souvent quand on parle de l'esclavage, on oublie comment ça a commencé. C'était une proposition de business. Avec l'Occident, avant, on échangeait les épices. Et les Occidentaux, pour eux, la traite des Noirs, c'est un business comme un autre. Il y a eu des responsabilités des deux côtés, mais que ce n'était pas une idée qui est venue des marchands, c'est venu de l'échange des biens. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est ceux qui ont vendu et ceux qui ont acheté, les deux sont coupables. On ne peut pas uniquement dire que c'est les Africains qui ont vendu les leurs. Les Occidentaux savaient que c'était un crime contre l'humanité qu'ils étaient en train de faire. Donc, en même temps que la proposition était faite, les excuses étaient déjà mises en place. L'Église a participé. Au Portugal, le pape Nicolas III a signé une lettre aux négriers portugais en leur disant de s'adonner à l'esclavage perpétuel. Donc, on a, c'est pour ça que j'ai des problèmes avec les religions, parce que pendant tous ces moments difficiles de l'humanité, les religions
n'ont pas été au rendez-vous. Oui.
N'ont pas été au rendez-vous. Et au jour d'aujourd'hui, on en est toujours au même point. Quand je dis souvent que le fond qui a permis au capitalisme des pays occidentaux d'exister, c'est le travail des Noirs pendant 400 ans qui n'ont pas été payés. Je ne demande pas du tout de réparation. Je veux tout simplement qu'on soit en mesure de parler et qu'on sache vraiment la responsabilité des uns et des autres, que ça ne soit plus ce truc « Ah, c'est trop long, on ne peut pas en parler » ou « Ah non, ce n'est pas possible, il faut qu'on en parle ».
Alors j'imagine que ça ne vous a pas échappé, hein, Angélique Kidjo, on vient de commémorer les 20 ans de la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et au micro de nos amis de France Culture, l'ancienne garde des Sceaux s'exprimait en ce jour anniversaire autour de cette question. Comment appréhender aujourd'hui cette histoire commune entre la responsabilité du souvenir et la possibilité de l'oubli ?
Ce sont des décisions collectives, ce sont des décisions de société. C'est pour vivre ensemble qu'on décide d'oublier certaines choses. Et vous voyez, de ce point de vue, lors de la lecture du décret d'abolition dans les colonies, la plupart des décrets se terminaient tous, je crois, par une phrase qui était prononcée par le gouverneur de l'époque et qui disait « Dorénavant, on oublie tout, nous sommes tous frères dans les colonies ». Bon, la réalité, c'était autre chose, hein, parce que les maîtres étaient indemnisés, je l'ai rappelé, les esclaves ne l'étaient pas, donc les maîtres continuaient à avoir du pouvoir sur les affranchis, les anciens esclaves. Bon, donc c'était pas « nous sommes tous frères », la réalité c'était pas « nous sommes tous frères ». Mais c'était une parole publique proclamée pour dire « bon voilà, maintenant on oublie, on choisit d'oublier ». Et en réalité, effectivement, tout le monde a oublié. C'est-à-dire que les anciens maîtres, ils avaient bien intérêt à oublier, ils se sont dépêchés d'oublier. Mais les descendants des affranchis et des anciens esclaves ont choisi d'oublier parce que c'était trop douloureux, parce que c'était trop violent, parce qu'ils voulaient concentrer, rassembler leurs forces pour se projeter. Et c'est un exemple avec de très mauvaises arrière-pensées, mais en tout cas, c'est un exemple qui dit que collectivement, on peut décider d'oublier. Donc aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de dire « voilà tout ce que nous savons de cette histoire » et collectivement, voilà ce que nous choisissons d'oublier. Les noms des grandes familles qui se sont enrichies et qui aujourd'hui encore profitent de patrimoine qui vient très très directement de la traite négrière, de l'esclavage. Mais on ne va pas décider unilatéralement d'oublier ça si de ce côté-là, il n'y a pas un effort qui dise « bon, ben, nous on en vient, on a du patrimoine, on en profite ». On décide qu'on va faire des cadeaux à des musées. On décide qu'on va octroyer quelques bourses. Voilà. Donc, il y a des gestes qui peuvent alimenter une politique collective et consensuelle d'oubli partiel.
Angélique Kidjo, très concentrée en écoutant la voix de Taubira pour réfléchir en sol majeur à comment appréhender cette histoire de l'esclavage. Vous êtes d'accord ? Il y a des gestes, il y a des paroles qui doivent se décider ensemble, de part et d'autre.
Moi, j'aime l'idée. Parce que c'est vrai que c'est une chose que j'ai apprise avec Nelson Mandela, et c'est il faut pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, sinon vous ne vivez pas, parce que la personne vous possède toujours. Mais maintenant, dans cette logique-là, l'oubli n'est possible que s'il y a du respect des deux côtés. Du respect et l'acceptation de l'autre comme un être humain qui a les mêmes droits que vous.
Vous êtes dubitative là-dessus.
L'article 1er des droits humains dit « on est né égaux en droit ». Il faut regarder ce qui se passe au quotidien. Quand on est noir et qu'on va chercher du travail, avant que vous avez ouvert votre bouche, vous n'avez pas les mêmes chances que celui qui est français et qui est blanc. Donc, l'oubli ne sera possible que s'il y a un système qui punit toute discrimination. Dans la Constitution américaine, il est écrit que l'homme noir est le 3/5 d'un être humain pour les États du Sud américain qui avaient besoin des voix des noirs pour siéger au Sénat et au Congrès. Donc, à partir du moment où on veut qu'on l'oublie, il y a du travail à faire. La Constitution américaine doit enlever ça. Dans tous les pays qui ont profité de l'esclavage, leur système doit punir, mais radicalement et systématiquement, toute discrimination.
Moi, ce que je n'oublie pas, c'est que lorsque vous étiez cette petite angélique insensée, c'est que vous souhaitiez devenir l'avocate des droits humains.
C'est ce que je voulais faire, c'est clair. Ouais.
Alors, puisqu'on a un orteil dans la grande histoire, on va y rester en pointant la Première Guerre mondiale, parce que ça aussi, ça a du sens dans votre carrière, Angélique Kidjo.
Bien sûr.
J'aimerais vous faire entendre une archive très précieuse, et je dis merci à la Marche du Monde sur RFI. C'est la voix d'un tirailleur sénégalais, Monsieur Bakary Diallo. C'est un des rares engagés volontaires de Saint-Louis du Sénégal en 1914.
Pour s'engager, je suis arrivé à Saint-Louis. J'ai resté à Saint-Louis. Et puis un jour, on s'est rendu place Federbe. Et il s'est trouvé à l'instant qu'une compagnie de tirailleurs sénégalais qui était en manœuvre pour aller au quartier, le premier régiment tirailleur sénégalais, là-bas dans le nord. Il venait comme ça, la musique, les officiers à cheval, les soldats au pas, tac, 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 la musique. On a regardé ça comme quelque chose d'extraordinaire et qui nous a émerveillés et qui nous a plu. Le lendemain, nous sommes allés nous présenter au camp du premier Sénégalais. On arrive, bonjour. Alors, ils nous demandent qu'est-ce que nous voulions. Nous disons, nous voulons nous engager. Alors, nous étions reçus, comme tirailleurs, et pour 4 ans.
Un enregistrement de l'historien Marc Michel en 1960. J'imagine pour vous, Angélique Kidjo, qui avait chanté pour le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, entendre cette voix de tirailleur, ce n'est pas rien. Vous avez d'autant plus chanter devant un parterre d'hommes politiques, et pas n'importe lesquels, devant Poutine, Trump, Erdogan, Macron, Merkel, et j'en passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que, tout en chantant, vous avez observé la réaction de chacun d'eux.
Ouais, j'écoute sa voix à ce tirailleur, ça me rassure dans notre humanité, parce qu'il est parti pour faire quelque chose de fantastique. Il est parti pour libérer des hommes. Et puis, on oublie souvent pourquoi les gens s'engagent. Ils sont partis parce qu'ils aimaient bien les chevaux, l'habit. Oui. Tout ça, c'est son humanité, son amour de l'autre qui fait qu'ils s'engagent. Et quand j'étais en novembre 2018 à l'Arc de Triomphe, c'était ça que j'avais envie de célébrer.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez lu dans les yeux de Poutine ?
Oh là. Moi, j'ai accepté cette invitation du ministère de la Défense en France parce qu'il est indispensable que les commémorations comme ça nous rappellent que nos envies, nos tentations d'aller vers les guerres, ce n'est jamais quelque chose qui est anodin. Et que tous ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, tous, qu'ils soient français, qu'ils soient africains, qu'ils soient allemands, tous ceux qui ont donné leur sang, doit être célébré. Et quand on arrive en tant qu'artiste, petite fille grandissant en Afrique avec l'histoire des veuves, des grands-mères, des arrière-grands-mères qui ont subi les conséquences de cette guerre quand leurs hommes ne sont pas revenus, et qu'on a des chefs d'État qui sont dans une posture de dédain et de mépris pour une cérémonie pareille, on se dit que le monde va mal. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça. C'est ça qui m'a le plus choqué de la part de Poutine, Erdogan, Netanyahou, Trump, tous ces gens-là qui sont là, leur langage corporel est tellement fort. Donc, quelque part, c'est cracher sur les gens qui sont venus mourir pour qu'eux, ils soient là aujourd'hui. Et pour moi, c'est intolérable.
Vous avez une place, je trouve, très particulière sur l'échiquier musical mondial, Angélique Kidjo. Vous êtes entre l'humanitaire, l'engagement. On n'a malheureusement pas le temps d'évoquer votre fondation Batonga qui se bat pour l'éducation des jeunes filles en Afrique, si importante. Plus largement, et pour en sol majeur, est-ce que vous vous sentez être ce qu'on appellerait une diasporée ?
Certainement.
Mais vous ne vivez plus aujourd'hui dans les aéroports comme autrefois.
Ça fait un an, non ? Je ne suis pas dans les aéroports, mais ça va recommencer. Ça va commencer.
Mais vous ne vivez plus non plus en France, hein. Vous êtes aux États-Unis.
Oui, mais je suis confinée ici depuis le début du confinement en mars, en fait. Donc, je vais retourner dans quelques semaines à New York. Ouais.
Et donc la diasporée que vous êtes s'est beaucoup baladée, a beaucoup cheminé sur notre planète, ça c'est sûr, et a redécouvert, justement à travers les cultures diasporiques, certains trésors de votre culture béninoise. Et vous évoquiez dans votre livre quelque chose de très joli qui s'appelle le athé. Qu'est-ce que c'est ?
Le athé, c'est un rythme traditionnel. C'est que quand il y a un conflit entre deux villages et que peut-être une histoire d'amour qui se passe mal, quel que soit le conflit, au lieu de prendre les armes, les deux chefs de village décident un jour et la rue qui sépare les deux villages, chacun se met de son côté et on chante, on s'insulte, tout ce qu'on a sur le cœur, on le dit. Et en fait, c'est ça qui est le début, la fondation du calypso, en fait. Parce que c'est ça a commencé avec et c'est ça qui est en fait la source et le début du calypso.
Votre père est venu à la maison. Vous allez faire quoi pour vos parents?
Vos parents viennent dîner à la maison. Que leur cuisinez-vous?
Si mes parents viennent dîner à la maison, je crois que ma maman elle va être très critique de ce que je... Alors ça là, t'as pas mis ma... Parce que maman elle est une cuisinière hors pair, donc elle m'a appris à faire beaucoup de choses. Donc forcément, si mes parents viennent dîner à la maison, je ne leur ferai pas un plat de chez moi. Parce que je ferai un truc de complètement différent pour leur faire découvrir quelque chose d'autre.
Alors quoi, par exemple?
Oh, je ferai de la cuisine thaïlandaise, peut-être. Je ferai un truc au curry ou... et puis je mélangerai avec un dessert. Je ferai un fondant au chocolat aux épices, par exemple. Quelque chose de complètement différent, en fait.
Vous dites que composer, c'est comme cuisiner. Donc c'est le moment d'évoquer ce nouvel album qui va sortir chez Universal le 18 juin. C'est un appel. Mother Nature. Comment vous présenteriez cet album?
L'album Mother Nature, je la présenterai comme un album de transmission, en fait, de génération, Aina, parce que je me suis rendu compte que ma musique a inspiré et influencé beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui. Et en même temps, c'est une lettre d'amour que j'écris à la Terre. Parce qu'on ne peut pas exister, on ne peut pas être assises toutes les deux ici à faire cette émission si la Terre n'existe pas. C'est-à-dire que cette planète a un écosystème. On n'a pas trouvé une autre ailleurs. Donc j'ai profité de mon confinement pour faire un album avec le moins d'empreintes carbone possible et d'inviter des jeunes dans leur quotidien à parler de sujets. Donc la première chanson de Dignity, c'est après les mouvements de la jeunesse contre les violences policières au Nigeria. Donc les jeunes sont venus en dignité et en paix, ils ont reçu de la violence. Donc je dis, le respect doit être réciproque. Et toutes les chansons de l'album, c'est comme un livre qu'on a écrit. J'ai fait une chanson avec M, autour du mycélium, qui est un champignon qui n'a pas de commandement central et qui fait qu'on est là. On existe parce que le mycélium est là. Nous sommes faits d'organismes. Et on oublie souvent ça dans notre arrogance, que cet équilibre précaire dans lequel on vit, il faut tout faire pour le préserver.
Mother Nature, donc un album vert, émeraude. On va reprendre l'avion justement en écoutant le titre qui sort un peu en cheval de Troie. Vous êtes aux côtés de Yemi Alade, donc la star nigériane, pour Dignité. Un grand merci en sol majeur.
Merci beaucoup pour
m'avoir invité.
C'est un bonheur.
Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you.
Were you there yesterday when the gunman shoot men down? No retreat, no surrender. If them push you, no fall down. Many come, many go. Me know the sleepy day for all.
Where did these guys?
when the gunman shoot men down. No retreat, no surrender, if them push you no further. Many come, many go, we know the sleep today for all. Come in peace, not in pieces, oh yeah, yeah.
En sol majeur qui pulse, émission à réécouter en podcast sur votre application de prédilection, Pure Radio, à retrouver également sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, et bien sûr en direct chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve la semaine prochaine avec Nadia Atroubi, Saf Saf. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.
Bon, merci beaucoup, les amis.
L'épopée des musiques noires.